cantoral des grandes gueules.
DGG avec la candidate à l'élection présidentielle représente Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous sentez en sécurité ?
Oui, honnêtement, oui. Je me pose pas la question tous les jours, voilà, de risquer ma vie, voilà, en rencontrant un déséquilibré, voilà, quelqu'un de fanatisé. Non, c'est pas une question que je me pose au jour le jour.
Est-ce que vous aviez été prévenu la semaine dernière, comme d'autres candidats, qu'il y avait cette menace ?
Non, parce que je ne pense pas être une cible spéciale, donc non, je n'en avais pas été informé.
Alors on s'interroge, on n'a quasiment pas parlé de cette menace terroriste qui pèse sur la France depuis maintenant de longs mois, voire plusieurs années.
Oui.
Comme si finalement il y avait une bulle dans cette campagne présidentielle, que la menace n'était plus là, qu'on ne risquait plus rien. Puis finalement, cette menace qui pèse sur certains candidats nous fait rappeler que on n'a rien réglé pour l'instant.
Bien sûr, on n'a rien réglé et la réalité, c'est qu'ils régleront rien, ceux qui prétendent avoir la solution au terrorisme, parce que ça fait combien d'années ? 10 ans ? 11 ans, 12 ans que la guerre contre le terrorisme a été déclarée et elle a justifié les premiers bombardements sur l'Irak, ceux sur l'Afghanistan. Et puis on se retrouve maintenant non pas avec un foyer terroriste, hein, il n'y a plus seulement Al-Qaïda, mais avec 10, 12 foyers terroristes. C'est devenu juste immaîtrisable, c'est ça la réalité.
Quelles sont vos solutions ?
Y compris aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont en train de faire en disant voilà, on est en train de détruire Daesh et le territoire qu'ils contrôlent. En fait, ils savent pertinemment que il va y avoir une démultiplication. Enfin, en tout cas, ils vont se dissoudre, mais ils vont pas disparaître. Hein, ils vont se dissoudre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, moi, de solutions, j'en ai pas plus que ceux qui dirigent. Mais je dis quand même qu'une mesure qui pourrait être quand même salutaire, c'est qu'on arrête de rajouter de l'huile sur le feu en arrêtant avec ce terrorisme d'État. Dernièrement, j'ai dénoncé les bombardements qui viennent sans doute de Bachar al-Assad. Hein, à l'arme chimique sur la population
syrienne
d'Idlib. Mais ensuite, j'ai dénoncé aussi le terrorisme d'État des Américains. Hein, et puis, cette attitude-là de montrer les muscles hein, avec leur histoire de bombardement aussi sur l'Afghanistan et puis le porte-avions envoyé vers la Corée du Nord. Enfin bon, on voit bien que tout ça, c'est pas une solution, mais c'est une fuite en avant.
Sur les causes, Nathalie Arthaud, je vous entendais lors du débat pointer la responsabilité du grand capital dans la crise syrienne. Est-ce que vous pensez que ça n'est pas un tout petit peu caricatural ? Et que, est-ce que, par exemple, comment vous situez par rapport à l'islam radical, par exemple ?
Ce n'est pas caricatural du tout, parce que c'est les racines profondes qui expliquent ce qui se passe dans cette région du Proche-Orient, qui a été une région, vous le savez, disputée, où les rivalités font rage depuis toujours. C'est des zones d'influence.
Donc, l'islam radical
tout le monde
n'a rien à voir avec ça.
Mais là-dessus se greffent des bandes qui cherchent à accaparer une partie du pouvoir et qui utilisent les différences de religion, qui utilisent les différences, qui utilisent le conflit israélo-palestinien, qui utilisent toutes les situations, toutes les préjugés, qui peuvent exister pour prospérer, pour souder autour d'eux. Mais moi, ça, je le vois comme davantage, si vous voulez, comme l'apparence qu'il recouvre. Mais le fondement, c'est quand même ça. Y compris, regardez les liens qu'on a avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, pour des raisons. Pourquoi ? Pour leurs valeurs démocratiques, pour le respect du droit des femmes, parce que ce sont des vigies de la paix. Mais non, écoutez, c'est parce qu'il y a effectivement des histoires de gros sous derrière tout ça. Donc moi, ce que je dénonce, ce sont ces manœuvres, ce sont ces collusions, ce sont ces complicités qui datent pas d'hier, hein, qui datent pas d'hier et qui datent pas de Daesh, qui remontent à bien plus loin.
Mais l'islam radical dans les quartiers, le danger qui vient, c'est né du grand capital aussi ou pas ?
Mais vous savez, le grand capital, il s'arrange de beaucoup de choses. Il s'arrange d'un tas de préjugés, il s'arrange du machisme, il s'arrange, mais même des castes en Inde. Hein, ils s'en arrangent. Parce que la réalité, c'est quand on est dans une société qui est basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme, eh bien, toutes les différences, toutes les inégalités sont exacerbées. Donc, le grand capital, il s'arrange de tout. Et moi, c'est ça qui m'impressionne. C'est que, y compris ce capitalisme, hein, cette société riche, dont on nous dit qu'elle va nous apporter la civilisation et que.
Mais Nathalie Arthaud,
elle s'arrange.
En Afghanistan, talibans ont pris le pouvoir sur le restant de l'Afghanistan, c'était pas l'action du grand capital qui était à l'œuvre.
Bah, vous savez très bien que ça a été le boomerang qui est revenu dans la figure des Américains, parce que vous connaissez l'histoire d'Al-Qaïda, et vous savez que ils ont œuvré aussi en complicité avec et encore une fois, moi ce que je pense, mais regardez, même on peut poser la question de l'ethnisme. Pourquoi l'ethnisme? Pourquoi ces conflits tribaux? Ils ne sont pas éradiqués alors qu'on est au XXIe siècle, il y a des richesses, que les valeurs auraient pu progresser. Eh bien, parce que ça prospère sur la misère, sur le dénuement le plus complet, parce que c'est toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre.
L'abandon de certains quartiers qui peut expliquer aussi...
De régions entières, de continents entiers. Vous savez, ils peuvent recruter facilement. Et d'ailleurs, il y a des témoignages dans ce sens-là. Ils peuvent recruter facilement quand il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui sont marginalisés, sans rien, mis au banc de la société.
C'est pas si simple, parce que Daesh, pour le coup, a recruté même dans les classes moyennes, un peu partout. Par exemple, un des deux terroristes arrêtés, c'était un catholique converti. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'explication
Qui avait fait un petit séjour aussi en prison et qui...
Oui, c'était radicalisé.
Souvent, ce sont des délinquants qui se radicalisent aussi.
Ce qui est fou, c'est que la prison, c'est aussi la grande fabrique des djihadistes.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, les prisons? On les vide?
Les prisons, de toute façon, là, il faut quand même se poser des questions, hein, parce que vu ce qui se passe, la surpopulation, vu que effectivement, elles sont pas là pour permettre à ceux qui sont emprisonnés pour des délits, parfois des délits qui sont mineurs, pour leur permettre pour leur mettre le pied à l'étrier, pour qu'ils puissent redémarrer une nouvelle vie, mais qu'au contraire, ce soit l'enfer, le chaos, la loi du plus fort, la loi de la jungle, et que y compris il y ait même dans certains quartiers de certaines prisons une prise de pouvoir par des militants islamistes, il faut quand même se poser des questions. Et moi, je pense qu'il y a des peines qui seraient auxquelles il faut réfléchir pour que ça soit positif pour tous.
Vous êtes partisane d'une laïcité stricte. Vous opposez par exemple au financement public de l'enseignement religieux. C'est-à-dire que si vous étiez au pouvoir, les écoles privées ne seraient plus, les écoles privées sous contrat, ne seraient plus financées par l'argent public. Il y a 20% des élèves français qui sont dans ces écoles privées. Qu'est-ce que vous dites à leurs parents alors?
Je dis à leurs parents qu'il faudrait effectivement que l'éducation publique, accessible à tous, gratuite, ait davantage de moyens. Et moi, je me bats, je suis moi-même enseignante, pour que...
C'est le premier budget de l'État, l'éducation nationale en France.
Oui, mais c'est pas parce que c'est le premier...
Mais c'est l'un des plus importants au monde.
Juste devant le remboursement des intérêts de la dette.
C'est vrai.
Et ben moi, je trouve que...
C'est l'un des plus importants en Europe, notre budget. Mais on en a pas assez encore.
Mais ouf. Vous savez, toutes ces comparaisons-là, elles valent pas grand-chose, parce que vous savez on a aussi les maternelles, et je trouve que c'est une très bonne chose. Mmh. C'est sous une autre forme en Allemagne. Donc toutes ces comparaisons-là, faut arrêter. Ce qu'on sait, moi, ce que je sais en tant qu'enseignante, c'est qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de s'intéresser aux enfants. Moi, je suis convaincue qu'on peut tous leur donner l'envie. Ils sont tous curieux, ils sont tous partants, à condition qu'on puisse les accompagner, s'intéresser à eux, aller à leur rythme. Et aujourd'hui, c'est pas possible, parce qu'on travaille avec des classes trop importantes, et d'abord et avant tout dans le primaire.
Mais c'était au programme de la gauche. En 1981, on devait nationaliser et faire un grand service public d'éducation.
Il y a eu 1 million de personnes dans la rue.
Terminé, que François Mitterrand, qui était d'ailleurs un enfant de l'école libre, de l'école privée catholique, du collège Saint-Paul à Angoulême, et finalement il a reculé. En fait, il n'y a jamais cru, François Mitterrand. Ouais. À mon avis, il est là-dessus, de ce côté-là. Ouais.
La loi Savary.
Et pourquoi croyez-vous que nous avons toujours été contre Mitterrand et contre Hollande et contre toutes ses promesses? Eh bien, pour ces raisons-là aussi.
Et vous dites même que si Mélenchon arrivait au pouvoir, ça serait comme Mitterrand en 81, on serait rapidement déçus.
Eh oui.
Et pourquoi ça?
Eh bien, parce que on retombe dans les mêmes mécanismes. Hein. C'est des espèces de magiciens qui nous expliquent. Voilà, une fois au pouvoir, ils vont raisonner le système, ils vont le moraliser. Ils vont. Moi, je crois que c'est complètement utopique de penser qu'on puisse gouverner un système, cette société, de façon juste, de façon égalitaire, puisque notre système, la base du capitalisme, est fondée sur l'exploitation, sur les inégalités, sur les injustices. Et vous savez, les socialistes au pouvoir, quand ils arrivent, ils redécouvrent à chaque chaque fois le mur de l'argent. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Hein, bon, ben, c'est bon.
Oui, mais alors,
savez,
ça veut dire...
Le mur de l'argent, c'est Léon Blum en 1936. Le premier qui en avait parlé.
Mais qui avait été au pouvoir.
Et il avait parlé des 200 familles. Et à chaque fois, il le redécouvre, etc. Alors, bah, nous, les travailleurs, vous savez, le mur de l'argent, on l'a en face de nous tous les jours. Et on n'a pas le besoin de le redécouvrir parce qu'il faut l'affronter tous les jours.
D'accord. Donc ce n'est pas en accédant au pouvoir qu'on change les choses. Ce n'est pas en devenant président de la République.
Non. Il ne faut pas gouverner, donc du coup, il faut laisser faire.
Ah, mais moi, je suis pour le pouvoir.
Ah bon?
Mais le pouvoir des travailleurs.
Écoutez, le pouvoir, vous pourriez déjà.
Je suis pour que les travailleurs, ils prennent le pouvoir.
Vous pourriez déjà faire l'alliance avec le NPA. Ce serait déjà un commencement pour prendre le pouvoir.
Non, ce serait pas un commencement. Mais... Parce que vous savez, même ce pouvoir-là ne veut pas dire qu'il y a un parti unique. Hein. Le pouvoir des travailleurs et les travailleurs...
Il n'y aurait pas la dictature du prolétariat.
Il y aurait des courants dans le
la
parti unique.
La dictature du prolétariat, ce n'est pas le parti unique. Oui, la dictature du prolétariat, c'est le gouvernement le plus démocratique, le plus fraternel possible. Parce que le prolétariat représente l'écrasante majorité. Et s'il gouvernait les grands moyens de production, les grands groupes industriels et financiers, eh bien, il serait dirigé en fonction des intérêts du plus grand nombre.
Par quel magie noire vous expliquez qu'à chaque fois qu'il y a eu une expérience marxiste dans le monde, ça s'est toujours terminé par le sang, par l'absence de liberté, par des catastrophes économiques. En quoi Nathalie Arthaud ou M. Poutou serait-il plus habile à transformer justement le marxisme théorique en application pratique heureuse que tous les gens qui se sont succédés de manière catastrophique dans l'histoire jusqu'à maintenant?
Alors, d'abord, moi je me revendique d'une tentative de prise du pouvoir par les travailleurs, les ouvriers, les paysans. C'est en Russie en 1917. Et je commémorerai bien sûr les 100 ans d'ailleurs de cette révolution-là en octobre.
Mais elle a mal tourné ensuite.
Parce que, mais attendez,
s'est transformé
ensuite.
En pouvoir personnel.
Ensuite, mais vous savez ce qui s'est passé.
Il y a eu Staline.
Sauf que. On commémore les massacres de cette Première Guerre mondiale. Le chemin des dames.
Le président Hollande est très actif.
En une journée, des villes entières.
Il y avait encore des décorations.
Hein, qui, des 40 000, des 50 000, des 60 000soldats qui se sont transformés effectivement en chair en canon. Alors moi, je peux vous dire que ce qu'ont réalisé les ouvriers, les paysans en Russie, de dire ça suffit, nous, on ne sert plus de chair à canon. On se révolte contre cette guerre, on se révolte contre le tsar. Qui se sert de nous pour maintenir son pouvoir, eh bien moi je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été réalisé.
Les Russes, ils se sont révoltés contre le système qu'on leur imposait.
Oui. Attendez, après. Mais moi je vous parle de la révolution russe. Oui. Et je peux vous dire que, voilà, pour moi, dans cette dans la nuit noire de cette Première Guerre mondiale et dans la boucherie qu'elle a constituée, ce qui s'est passé en Russie est quelque chose de fondamental. Et pour
comment éviter que la révolution tourne mal, voilà.
Cette révolution a effectivement été, a d'abord eu des obstacles ô combien importants, puisque tous les pays qui se tapaient dessus pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands, les Français se sont retrouvés ligués contre eux, et effectivement, il y a eu cette prise du pouvoir par une bureaucratie, et ça s'est transformé en dictature, que nous avons toujours combattu d'ailleurs, puisque moi je suis trotskiste de ce fait-là.
Bien sûr.
Mais juste une petite remarque, une tentative qui a échoué, et à laquelle il faut quand même réfléchir, parce que y compris l'économie planifiée, elle a quand même existé. L'économie, il y a eu des investissements.
Mais la Chine.
Pour moi, la Chine, c'était pas une révolution ouvrière, mais je vais pas discuter dans le détail de tout. En tout cas, allez, un, deux ou trois expériences, ok. Mais le capitalisme. Cette société capitaliste, elle s'est développée depuis maintenant 200 ans, deux siècles, à l'échelle de toute la planète. Il n'y a pas eu une tentative. Il y en a eu 100, il y en a eu 200. Et attention, elle s'est répandue à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, elle domine. Elle domine avec ses lois, avec son mode de fonctionnement. Vous trouvez que c'est une réussite?
Je préfère vivre à Paris qu'à la Havane.
Mais parce que, pourquoi? Parce que vous avez un métier que vous avez choisi, parce que vous vous épanouissez et que vous êtes bien payé. Beaucoup de travailleurs, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de gens qui sont au chômage, c'est autre chose.
Je prétends pas être représentatif de toute la population française, mais lorsque vous regardez les consultations électorales de tous les Français depuis déjà beaucoup d'années, des partisans d'être à la Havane plutôt qu'à Paris, il n'y en a pas des masses.
Non,
quand même.
Mais bon, en tout cas, moi, je veux juste quand même vous faire remarquer que quand vous lancez la pierre aux tentatives qui ont été réalisées de s'émanciper hein, du cadre capitaliste de l'économie, eh bien moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que ces dictatures qui ont été engendrées aussi par le cadre, par la société capitaliste, Hitler, Mussolini, Franco, c'est pas non plus un échec?
Ce qui se passe aujourd'hui,
ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde, hein, qui est 20 millions de femmes, d'enfants, d'hommes dans l'est de l'Afrique, entre la vie et la mort, ces guerres, hein, ça pose quand même un certain nombre de questions. Où allons-nous avec ce système capitaliste?
Eh bien, on va continuer d'en parler avec vous, Nathalie Arthaud, dans ce grand oral des GG. Question de votre collègue prof Fatima Hidbounois dans un instant, de Jacques, de Gilles William. À tout de suite sur AMC numéro 23. Les GG, les grandes gueules, avec le grand oral des GG de Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle pour Lutte ouvrière. Question de votre collègue prof, si je puis dire, Fatima Hidbounois.
Alors, de l'extérieur, alors on voit plutôt vos points communs avec, avec Poutou. Du coup, on s'interroge, quelles sont les différences que j'imagine profondes qui vous ont poussé à ne pas vous unir pour cette présidentielle?
Non, ce ne sont pas des différences profondes. C'est sûr que, à comparer aux 9 autres candidats, nous disons que le capitalisme ne peut pas être l'avenir, l'humanité. Donc ça fait déjà une bonne base commune qui effectivement nous soude. Et au regard de ce projet-là, c'est vrai que les différences qu'on a peuvent paraître mineures. Et en même temps, elles existent, même dans la perception effectivement que nous avons de la politique de Jean-Luc Mélenchon, de ce qu'il serait possible de faire avec lui. Nous n'avons pas le même point de vue. Sur la question du voile, nous n'avons pas le même point de vue. Et puis, y compris, il y a une chose qui nous sépare aussi fondamentalement, enfin qui nous différencie, je dirais, fondamentalement, c'est que, par exemple, Philippe Poutou dit qu'il parle de l'écologie, qu'il parle des violences policières, qu'il parle de la lutte contre le racisme, et que toutes ces luttes-là sont mises au même niveau que la lutte que les travailleurs ont à mener. Nous, nous ne pensons pas cela, parce que nous pensons que les travailleurs, c'est une force sociale qui est bien particulière, qui a la possibilité en fait, de transformer la société, de changer du tout au tout, et donc qui a la clé, finalement, de l'avenir. Donc, et c'est la raison aussi pour laquelle nous nous axons sur la condition ouvrière, quand dans une campagne du NPA, c'est une campagne plus...
Arlette Laguiller a été 5 fois candidate à l'élection... 6. Elle a même le record. J'en avais oublié une. Vous-même avez été candidate à l'élection présidentielle. Dans les années 70, où le Trotsky se faisait un peu plus florès ou résonnait un peu plus en France,
intellectuellement,
pourtant, vous n'avez jamais percé. Je veux dire, vos idées n'ont jamais émergé dans la société.
C'est une autre question.
C'est quand même la fondamentale.
Oui, mais ça c'est une question.
Donc ça veut dire que vous ne trouvez pas d'écho dans la société, que vous êtes condamné à rester un groupuscule qui se retrouvera une fois par an au château de Presles.
D'abord, je te tiens à dire que ce n'est pas parce que nous sommes minoritaires que nous avons tort. Et que ce n'est pas parce que nous sommes minoritaires et à contre-courant que nos idées sont nulles et non avenues. Ça, c'est une première chose. Nous sommes clairement à contre-courant. Mais honnêtement, hein, quand le courant pousse dans cette direction-là, aussi réactionnaire, quand elle pousse à la soumission, à la résignation, moi je suis fière, hein. Je suis fière d'être à contre-courant.
Non, mais vous êtes peut-être plus efficace dans les luttes sociales. Par exemple, Jean-Pierre Mercier, qui est lutte ouvrière, lutte contre la fermeture du site de Nesle. Bon, malheureusement, il a fermé, mais il est peut-être plus utile, c'est peut-être plus concret qu'à une élection présidentielle où vous êtes noyé
Au contraire, je crois que cela va de pair. Vous savez, même quand pour faire une grève, pour débrayer, pour se battre, il faut déjà, dans sa tête... avoir ces convictions-là. Il faut déjà considérer que ces revendications sont légitimes. Il y a un combat à mener dans les consciences, dans les têtes. Et le combat politique, bien sûr qu'il faut qu'on le mène en conscience, en toute conscience, qu'on est minoritaire. Nous sommes à contre-courant. Mais on doit mener aussi le combat politique.
Fatima Hidbounois.
Si, pour la révolution, parce que vous parlez de révolution, de cette révolution ouvrière, et de la sortie du capitalisme d'une certaine manière, mais en même temps, vous refusez l'idée d'un État souverain, donc forcément cette révolution, elle sera mondiale ou elle ne sera pas, si on vous suit.
Moi, je suis convaincue que s'il y avait des luttes puissantes en France, des travailleurs, s'il y avait un ébranlement très fort, eh bien, il y aurait des secousses en Europe. Ça a été le cas de tous les grands mouvements sociaux. Vous savez, là, on parlait des années 70. Regardez mai 68. Mai 68 n'est pas resté... C'était pas une révolution. Hein, c'était l'irruption de millions de femmes et d'hommes voilà, qui avaient envie de changer un certain nombre de choses qu'ils exprimaient. Eh bien, il y a eu des échos. Il y a eu des échos en Allemagne, en Europe. Il y a eu des échos au Mexique. Il y en a eu au Japon. Il y en a eu... Voilà. Donc,
ça a renforcé la droite, finalement.
Non, alors, pas du tout.
Vous avez raison de souligner que quand les travailleurs ne mènent pas le combat jusqu'au bout, eh bien, ils perdent. Vous avez raison de souligner que quand les travailleurs... Mais ils sont vite récupérés. Mais ils sont récupérés.
Vous avez en face de vous, Nathalie Arthaud, un chef d'entreprise, quelqu'un, Jacques Maillot, qui, avec Nouvelle Frontière,
a 68 ans,
et a révolutionné le voyage, l'a démocratisé et a permis à des gens modestes de partir voyager à travers le monde. Je regardais votre programme économique, vous dites aujourd'hui, si nous arrivons au pouvoir, et Jacques Varagé, en tant que chef d'entreprise, vous dites augmentation immédiate de 300 euros pour tout le monde.
Et 1800 euros pour tout le monde.
Contrôle des entreprises par les travailleurs. Et 1800 euros net.
Une pension en dessous de 1800.
Et 1800 euros net pour tout le monde.
Oui.
Bon, chef d'entreprise qui est en face de vous, d'ailleurs, c'est pas possible.
Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous me répondez à ça.
Il a raison, mais c'est pas possible.
Ah bon?
Mais ça dépend de la situation de tel TPE, tel PME.
Non,
mais.
Eh bien, moi, je vous dis.
C'est par l'État
des. Eh bien, moi, je vous dis que ce n'est pas possible de vivre avec moins.
Mais,
et cette question, posée, il faut vous la poser. Comment des femmes et des hommes peuvent-ils faire pour vivre avec moins de 1800 euros net par mois, quand on sait que les loyers, c'est 500, 600 euros, quand on sait qu'il y a là-dessus la facture d'électricité, il y a d'eau, quand on sait qu'il y a l'assurance maladie. Moi, le point de vue, c'est celui-là.
Si vous augmentez le SMIC, finalement, après, je dirais, dans une petite PME, finalement, on n'embauchera personne. C'est clair, parce qu'après, il y a les...
Non, mais d'abord, c'est toujours la question des PME, des TPE. Vous savez très bien que la question des PME et des TPE, la première chose qui tue les petites entreprises, le petit boulanger ou le plombier,
c'est les grosses,
et puis c'est le fait qu'il n'ait pas de clients. C'est le fait qu'il n'ait pas de clients. La crise, vous savez, elle a pesé sur tout le monde et sur bien des petites entreprises.
Donc, en augmentant les salaires, on redonne du pouvoir d'achat aux clients.
Bah, évidemment, évidemment. Donc, c'est pas les petites entreprises, la réalité. Et puis, voyez, posez-vous la question aussi. C'est quand même fou quand on dit à un ouvrier, à une caissière, qu'on ne peut pas lui donner 1800 euros net par mois, et puis que de l'autre côté, on voit les grands actionnaires, là, accumuler des fortunes immenses.
Les grands actionnaires, c'est vrai dans les grands groupes.
Pourquoi on se pose la question
C'est pas vrai dans les PME, jamais, c'est pas vrai dans les TPE.
Mais ce sont ces grands groupes qui dominent. Et ensuite, ce sont ces grands groupes qui vont tordre le cou à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs. Et même dans votre groupe, je suis sûre que c'est comme ça que
dans
ça se passe.
Groupe, non, hein,
il y a bien des petites entreprises qui...
Ça ne mériterait pas une redéfinition. C'est-à-dire que très souvent, Gattaz le fait lorsqu'il parle des patrons. Il met finalement dans le même sac
ça,
des patrons
intérêt.
De très voilà, de grands groupes et des petits. Mais vous aussi, finalement, lorsque vous allez... Voilà,
justement,
mais peut-être vous, dans votre terminologie, est-ce que vous faites cette distinction-là?
Absolument. Vous mettez cette différence. Et je l'ai dit bien souvent. On se sert des petits patrons, petits artisans, pour tirer les marrons du feu des plus gros. Parce que regardez ensuite, quand il y a des exonérations de cotisations, franchement, qui est-ce qui en profite? C'est ceux qui ont beaucoup de salariés. C'est pas l'artisan qui bosse avec un ouvrier. C'est pas vrai. C'est les gros. Et ils encaissent, en plus. Et aucun contrôle pour cet argent. Cet argent, il va directement dans les coffres forts des grands actionnaires. Bien sûr, moi, je le dénonce.
Je voulais revenir sur le rôle de Mercier. Mais Mercier, excusez-moi.
Jean-Pierre Mercier.
Qui était le délégué syndical CGT de
Finalement, Peugeot. Il a perdu le combat. Et finalement, ça marche très bien. Ça prouve que les mesures. mais c'est une réalité. Regardez les résultats. Pour une fois.
PSA marche très bien. Mais bien sûr que Peugeot, ils peuvent être contents, etc. Mais les ouvriers.
C'est un dressement.
Est-ce que vous intéressez à ce que vivent les ouvriers aujourd'hui à Poissy? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui?
Mais attendez, je vais aller au bout. Vu les résultats de PSA, en effet, je pense que là, on pourra augmenter les travailleurs.
Mais ce n'est pas le cas, figurez-vous. Vous savez combien
Donc, 0,6% de salaire général. Le redressement de PSA est une réussite.
Jacques, il est pour le partage.
Mais
même pire, c'est qu'ils continuent de supprimer des emplois. 0,6% d'augmentation de salaire. Ils continuent d'imposer ce chantage à la compétitivité, la flexibilité. Aujourd'hui,
sur
les champs Champs-Élysées, il y a un sous-traitant qui dépend de PSA et des choix, justement, de PSA et de Renault. C'est GMS Industries. Aujourd'hui, ils manifestent là, sur les Champs-Élysées. Parce qu'ils sont à la souterraine et ils sont en train de fermer parce que PSA a sans doute trouvé à exploiter une entreprise encore moins chère, je ne sais pas où. Et donc, ils arrêtent les commandes de GMS Industries. Et c'est 300 salariés qui sont sur le carreau. Voilà comment Peugeot prospère aujourd'hui.
Avec l'interdiction des licenciements, ce que vous préconisez, le contrôle des travailleurs sur les entreprises, vous avez une vision radicale de l'économie, d'un changement, en tout cas radical de notre économie. Il y a une chef d'entreprise, Sophie de Menton, qui a été dans les grandes gueules pendant des années, qui demande à l'éducation nationale que vous soyez viré, en fait, parce qu'elle ne supporte pas que vous soyez prof d'économie dans un lycée professionnel.
Ouais. Elle m'a fait un grand honneur. Bah parce que voilà, c'est là on a la démonstration que on représente vraiment deux mondes
opposés.
Opposés avec des sensibilités opposées. Ah, faites-moi une explication de texte parce que non seulement je suis prof mais en plus je comprends rien.
Ce que Sophie veut dire, mais elle, c'est peut-être là vous faire un procès d'intention, c'est qu'elle elle pense que à votre degré de conviction qui est incontestable, elle a peine à croire que vous ne profitiez pas de votre poste auprès des enfants pour faire de la propagande auprès de ces chères têtes blondes ou brunes qui sont trop malléables pour pouvoir résister à votre propagande. Voilà ce qui est dit. Mais peut-être que c'est un procès d'intention.
Je ne pense pas que Madame de Menton ait quelques risques que ce soit, que ses petits-enfants et Madame Artaud comme enseignante au lycée d'Aubervilliers, au lycée public d'Aubervilliers. Par ailleurs, vous savez, les jeunes avec qui je travaille, ils ont aussi un cerveau. Et je peux vous dire qu'ils ont 18 ans, et c'est une terminale en particulier avec qui je travaille beaucoup. Ils ont 18 ans, ils ont un cerveau, et vous inquiétez pas, les influences, elles sont diverses et variées. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que Madame de Menton est révoltée par l'agressivité et la violence de mes propos. Elle n'est pas révoltée par les 6 millions de chômeurs. Elle n'est pas révoltée par les ouvriers de Whirlpool qui se sont mis sur... Non, mais c'est ça qui est impressionnant. Parce que je dénonce... Je dénonce la violence sociale qui est faite aux travailleurs au travers de l'exploitation. C'est ça qui la révolte. Moi, c'est l'inverse.
C'est un échappatoire. Ce que je veux dire, moi, je suis content de vous avoir en face de moi. Je suis content qu'il y ait un et même deux candidats trotskistes aux élections. Et d'ailleurs, si au deuxième tour, c'est Poutou contre Artaud, je voterai Artaud. Et vous savez comment je peux drainer des milliers de voix d'extrême gauche.
Dans ce cas-là, vraiment, ça serait...
Qu'est-ce qui se passe sur cette antenne?
Parce que je vois les différences qui existe, notamment par rapport à l'islam radical, et c'est vrai, et vous avez raison, et sur les problèmes de voile, mais reconnaissez quand même sur le volet éducatif que lorsqu'on vous connaît, lorsqu'on vous entend, à l'intérieur des quatre murs, on a un petit doute sur le côté complètement objectif du cours d'économie que vous pouvez leur donner.
Bah écoutez,
c'est tout.
C'est une façon. D'abord, je fais mon boulot, je respecte les programmes, et puis surtout les élèves, ce qu'ils savent, voilà, c'est que je suis là pour qu'ils réussissent. Voilà.
Vous pourriez dire, j'aime l'entreprise.
Mais bien sûr.
Dire, j'aime les travailleurs.
Bien sûr. Mais attention. Je dis que dans l'entreprise, il y a deux camps qui s'opposent. Hein, il y a ceux qui sont sur le pont, hein, puis il y a ceux qui sont en soute, qui rament. Voilà, c'est ça la réalité. Donc c'est pas la question de l'entreprise qui gomme justement la lutte de classe qu'il y a. Et vous savez, même la lutte de classe, mes élèves, ils n'ont pas besoin de l'apprendre. Parce qu'il suffit qu'ils écoutent leur maman, leur père, leur sœur et leur frère. Ils en apprennent beaucoup plus de la réalité que dans mes cours et dans les programmes que j'ai à enseigner.
J'ai vu que vous vouliez interdire les expulsions locatives.
Ouais.
J'aimerais savoir comment, dans ces cas-là, comment ça se passe quand quelqu'un occupe illégalement un bien. Parce que moi, je vais vous donner des exemples concrets que j'ai autour de moi, de personnes qui achètent un bien pour l'habiter et qui ont... Alors là, on ne parle pas de gros groupes qui ont de gros bâtiments, on parle vraiment d'individus, de familles, et qui se retrouvent avec...
Des mauvais payeurs.
Des personnes qui squattaient, par exemple, ou des locataires qui ont un bail fini.
Qui n'a pas autre chose pour vivre que ça.
Ou quelqu'un qui est en détresse. Comment ça se passe dans ces cas-là?
Mais vous voyez, c'est toujours pareil. On utilise les petits propriétaires, l'ouvrier qui a accumulé toute sa vie et puis qui a acheté un appartement et qui a un locataire indésirable.
Je vous donne cette exemple parce que c'est lui qui m'intéresse. Dans le sens où vous parlez d'interdire les expulsions locatives, en règle générale, si vous aviez précisé dans le cas de grandes entreprises.
Non, mais parce que d'abord, moi, je pense qu'il faut que tout le monde ait un toit sur la tête. Ça, c'est évident. Et autant, je suis tout à fait pour que ce petit locataire qui se retrouve y compris dans cette situation-là, eh bien, il ait le moyen de toucher ses loyers. Autant, je continue de dire, oui, aucune expulsion. Alors, qu'on trouve, qu'on réquisitionne les logements vides de toutes ces sociétés immobilières, vous savez, qui font de la spéculation en vidant, en laissant vacants leurs immeubles, qu'on reloge les gens dedans, voilà, qu'on prenne l'argent là où il est et qu'on sait très bien qu'il y a des dizaines de milliers de logements vides, y compris dans la région parisienne.
Pour ceux
et puis, il faut les construire.
Pour donc, un propriétaire qui a acheté, on a des gens qui achètent, par exemple,
donc,
parfois on achète aux enchères,
on
achète un logement et ce logement est finalement occupé par un locataire.
Alors,
que l'ancien propriétaire n'a pas réussi à expulser.
Voilà, on propose au locataire un autre logement. De toute façon, il faut que tous les hommes et les femmes de ce pays, les enfants, aient
un toit
sur sa tête.
Celui qui enfreint la loi doit être sanctionné.
Et celui souvent qui ne paye pas, vous savez, c'est aussi celui qui ne peut pas payer. C'est aussi souvent celui qui est au chômage, qui n'a plus rien. Et moi, je milite pour une société où justement on ne soit pas dans cette situation-là, qui a un emploi, un salaire digne pour tout le monde. On parlait de 1 800 euros par mois tout à l'heure. Hein, et ben moi, je crois qu'avec ça, oui, bien sûr qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes liés à la misère et au dénuement extrême.
Nathalie Arthaud, restez avec nous quelques minutes encore parce qu'on va ouvrir le Grand Prix de l'Élysée.
Les grandes gueules.
Je serai candidat.
Le Grand Prix de l'Élysée.
Grand Prix de l'Élysée sont toutes les nouvelles de cette campagne électorale, notamment les déclarations des autres candidats. Ce matin, Marine Le Pen était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin et dans cet entretien d'embauche, il y a la partie programmatique et puis une partie un petit peu plus personnelle dans l'entretien.
J'ai coupé à ce moment-là.
Et vous avez coupé à ce moment-là. Ah ben on a gardé un petit extrait pour vous exprès, Nathalie Arthaud. Marine Le Pen.
Bien sûr, être la fille de Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas toujours été facile, en effet.
Et pourquoi?
Bah, d'abord parce que à 8 ans, nous avons été victimes d'un attentat qui a détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel nous étions en train de dormir. Et par miracle, d'ailleurs, personne n'est mort. Il y a même un bébé d'un an qui a été projeté du 5e étage et qui n'a eu qu'un bras cassé. Ils avaient appelé ça, les journaux, le miracle de la Toussaint, car ça s'était passé la nuit de la Toussaint.
Vous compatissez?
C'est sûr que ça doit être dur hein, d'être la fille d'un extorsionnaire de l'armée française en Algérie, d'un nostalgique du régime de Pétain, de quelqu'un qui nie l'Holocauste. Ça doit être très dur, ouais, ça c'est sûr.
Non mais sur la séquence,
ça doit être
vous
très
entendez
dur.
Là quand elle,
est
victime.
Elle veut se faire passer pour une victime. Ben, bon, mais ça c'est un mécanisme courant. Bon,
mais c'est pas vrai ce qui lui arrivait à 8 ans?
Ah mais sans doute, mais enfin son père, c'est évident qu'avec avec la politique, avec le poison qu'il distille, avec les idées dont il se revendique, c'est évident que Jean-Marie Le Pen...
Qu'on a envie de lui mettre une bombe dans...
En tout cas que Jean-Marie Le Pen ne soit pas accueilli à bras ouverts de partout.
Bah, c'est avec des raisonnements comme ça que vous faites peur, voilà.
Parce que dire...
Ça ne vous fait pas peur, vous, qu'on nie le génocide, qu'on explique que dans la rafle du Veldiv, il n'y a pas eu de responsabilité. Ça ne vous fait pas peur, ça?
Ah, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Pas ce qu'elle a dit. Pardon, on s'est expliqué là-dessus. Elle a au contraire incriminé l'État français de Vichy.
Oui, c'est toujours pareil. C'est la France. Ce qui la gêne, c'est d'être de regarder en face les responsabilités, effectivement.
De la
France,
je vous dis simplement.
Et c'est de mythifier une France qui n'existe pas.
Sur une séquence où on vous fout, quand vous avez 8 ans, une bombe dans votre immeuble.
Mais
vous
j'ai compati. Bon. Être la fille à 8 ans d'un personnage
bon, voilà,
comme
c'est
ça,
tout.
Ça
vous avez
être très
le droit,
dur.
Ça ne
change
rien.
J'ai compati.
On regarde que vous pouvez lui
dites-moi,
porter.
Dites-moi, qu'est-ce que vous ferez le deuxième tour
Se faire passer pour une victime. Parce que si on dit se faire passer pour une victime, là on n'est pas dans ça. Là, elle témoigne, déjà, elle répond à une question.
Voilà.
En plus, elle témoigne de quelque chose qui s'est déjà passé, qui s'est passé pour de vrai et qui suscite notre compassion. Qu'importe qui elle est, finalement. Voilà, on pense en 8 ans et on a de la compassion et ça, sans commentaire finalement.
Non,
parce
mais...
que l'expression, elle se fait passer pour une victime.
Oui, mais attendez,
ça donne l'impression
là, on est en train de discuter politique.
D'image. Oui, on est d'accord.
On est en train de discuter politique.
Voilà, on peut dire
attention à la manipulation. Vous savez,
on peut
manipuler
le côté
les émotions qui sont très forts là-dedans.
Tout le monde manipule les émotions dans ce cas-là. Alors, à ce moment-là,
en politique, oui.
Ça, oui.
Alors, à ce moment-là, lorsque vous plaignez la pauvreté des gens,
je choisis mon camp.
Alors vous,
je
vous
choisis mon
alors
camp.
On peut dire que vous manipulez non. aussi les émotions.
Je choisis mon camp, c'est sûr.
Avec son
après, ça, c'est la société
oui, mais
du spectacle.
Nathalie
c'est Arthaud, de bord qu'on est dans.
Voilà. Donc, alors, voilà.
Le soir du deuxième tour, vous ferez quoi?
Je ferai une soirée électorale.
Oui.
Je
ne
sais pas si c'est ça la question.
Ou alors la journée du deuxième tour, pour qui voterez-vous?
Ah oui, là vous... Ah, pardon.
Si vous n'y êtes pas.
Si vous n'y êtes pas.
Si vous
n'y êtes
pas. La journée du deuxième tour.
Oui, de la journée du deuxième tour, vous ne serez pas. Pardon,
excusez-moi.
Je l'ai mal exprimé, excusez-moi.
Non, c'est moi,
ça paraissait évident.
Pas
vous étiez déjà au deuxième tour.
Le soir du premier tour.
Voilà. Vous donc, faites une soirée électorale. Ensuite, il y a un deuxième tour.
Et donc, je prendrai position en fonction de la situation politique qui, effectivement, est assez peu prévisible.
D'accord.
En 2002, Arlette Laguillène... Voilà.
Mais vous...
Attends, parce que sur ça, c'est important de le dire. En 2002, Arlette Laguillène ne s'était pas prononcée entre Jacques Chirac et Marine Le Pen.
Oui, c'est vrai.
On lui avait reproché.
Oui,
non,
mais...
Jean-Marie Le Pen, pardon.
Ouais.
Si Marine Le Pen est au deuxième tour, vous appelez à voter pour faire barrage à Marine Le Pen?
D'abord, elle avait appelé à ne pas voter pour Jean-Marie Le Pen
et
à ne pas voter non plus pour Chirac.
Voilà.
En expliquant que Jean-Marie Le Pen n'avait pas augmenté ses voix, elle avait augmenté de 200 000 voix. C'était le Parti Socialiste qui avait perdu 2,5 millions de voix. Il y a eu un effet d'effondrement du Parti Socialiste.
C'est une position qui avait choqué à l'époque.
Aucun risque, oui, mais je redis le raisonnement, aucun risque que Le Pen passe au deuxième
quand
tour.
Quand on connaît le résultat, c'est facile de dire,
non.
Mais à ce moment-là, on ne le savait
pas. Mais justement, je suis en train de vous faire la démonstration mathématique.
Oui, mais c'est pas que
de droite,
une élection, vous le
savez. Les voix de droite du premier tour, les voix de droite du premier tour suffisaient
à élire
Chirac au deuxième tour.
Oui, d'accord, mais si tout le monde raisonnait comme ça, c'était pas si simple que
mais
ça.
Mais les voix de droite, c'est leur camp. Il fallait qu'ils aillent voter pour Chirac. Mais nous, on n'allait pas voter pour Chirac. On savait qu'il allait mener une politique anti-ouvrière. Il n'y avait aucune raison.
Donc ça sera la même position là, si c'est la droite face à l'extrême droite.
Il y a une situation qui est différente. Donc je prendrai position, encore une fois, le soir du premier tour, en fonction des rapports de force et en fonction... Et on va pas passer toutes les hypothèses, hein, parce que là, on n'en finit plus. Donc,
merci Nathalie Arthaud d'être passée par le grand oral des GG.
Poutou Arthaud, regardez.
Il vous a choisi.
Dans un instant...
Elle est sur la table.
Dans un instant, le GG, vous.